Bon, on est dans les temps. Bien, avec votre permission, nous allons poursuivre cette petite soirée. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Espace Mendès France sur cette exposition et la conférence de Yves Gingras que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, merci de votre présence. Je sais que dans la salle, il y a quelques Québécois, mais aussi beaucoup d'amis du Québec et de la francophonie. Donc, en quelques mots, simplement vous rappeler que l'Espace Mendès France est présent depuis de nombreuses années, depuis une quinzaine d'années en fait, dans ce qu'on appelle communément le monde francophone nord-américain, entre autres, en particulier en s'appuyant sur le jumelage que la ville de Poitiers a avec la ville de Lafayette. Et donc on a été un certain nombre à lancer des opérations liées à l'éducation, à la culture et récemment aux sciences et à l'innovation. Donc cette exposition, 400 ans de sciences au Québec, elle s'est trouvée assez naturellement inscrite dans nos préoccupations pour une série de raisons qui sont bien sûr la francophonie, bien sûr notre attachement à la valorisation des faits scientifiques, techniques et puis de l'innovation, mais également au fait que voici un an dans cet établissement, et d'ailleurs dans la salle vous étiez un certain nombre à être présents, nous avons signé une convention de partenariat avec un établissement qui s'appelle Cœur de Sciences, qui est le centre de diffusion scientifique de l'Université du Québec à Montréal et qui est dirigé par une amie de la maison que nous suivons depuis très longtemps, qui s'appelle Sophie Malavoie, et qui, grâce à de nombreux contacts, je dirais de manière assez constante depuis 10 ans, a maintenu un contact avec nous, donc des contacts qui ont été lancés par Yves Sénatiempo, qui était président de l'Espace Mendès France, grâce à Olivier Coussy, ici présent, qui régulièrement est présent pour des missions professionnelles et qui prend toujours sa casquette d'appui à la maison et donc qui a permis de conserver ses contacts. Grâce à des contacts avec des politiques et des hauts fonctionnaires du Québec comme Camille Limoges, René Moreau, qui n'est pas de ma famille, donc qui sont des personnalités éminentes qui soutiennent bien sûr le développement des sciences et de l'innovation au Québec, mais également les relations avec la France et avec l'Espace Pierre Mendès France pour la partie de diffusion de la culture scientifique. Donc l'exposition que vous avez pu voir a été coproduite entre l'Espace Mendès France et l'Université du Québec à Montréal, et c'est Yves ici présent et un certain nombre de ses collègues, dont un est présent dans la salle, Alain Couillard, qui est ici, qui ont, dans un partenariat avec l'Espace Mendès France, donc produit cette exposition. Sachez que cette exposition sera dans quelques jours présentée à Montréal dans deux lieux différents, un à l'occasion d'une inauguration et l'autre à l'occasion d'une conférence qui sera également donnée par Yves Gingras. Le dernier point dans notre relation avec la francophonie nord-américaine, c'est grâce à la revue L'actualité Poitou-Charentes, puisque Jean-Luc Terradillos fait vivre... Il est où Jean-Luc ? Il est reparti, fait vivre en permanence depuis plus de 10 ans et à travers ses pages francophonie cette notion de, à la fois de mémoire, de lieu de mémoire, mais aussi d'actualité et la dimension contemporaine des relations entre le Poitou-Charentes et le Québec, mais également toute la dimension scientifique et la dimension d'innovation qui est indispensable pour la suite. Voilà, donc le dernier point, c'est en termes d'information et de communication, c'est la région Poitou-Charentes qui a souhaité s'associer aux 400 ans du Québec et l'idée de positionner les sciences comme étant un élément de valorisation de cette relation nous a paru absolument évident. Donc ça donnera lieu, au-delà de l'exposition, à la mise en ligne des textes de Yves sur Internet. On espère une traduction aussi en anglais pour qu'elle soit présentée à Ottawa et dans des institutions bilingues du Canada. Donc à partir d'un petit point d'information à l'Espace Mendès France, en fait, on crée les conditions d'un rayonnement qui va bien au-delà de notre public poitevin, et je crois que c'est le rôle de la maison. Donc je voulais excuser Martine Daban, qui représente la région, qui était là avec nous là, ces dernières minutes, mais comme elle était de service aux urgences, elle était obligée de partir. Donc redire que la région avait porté une dizaine d'opérations autour des 400 ans, et l'opération de culture scientifique que la région a mis en évidence parmi une dizaine d'opérations, donc c'est celle que l'Espace Mendès France a lancée et va conserver ce mois-ci donc au sein de cette structure pour notre public, en particulier pour la venue du public de la Fête de la Science, puisque je vous rappelle que ça sera du 17 au 23 novembre prochain et que, bon an, mal an, il passe 2 à 3 000 personnes dans l'établissement en quelques jours. Donc, ça sera aussi une façon de valoriser la place du Québec et cette relation. Voilà, donc, avant de présenter Yves, donc, je voulais laisser la parole et un petit mot à Mustapha Begzir, qui représente donc le maire de Poitiers et le président de l'agglomération de Poitiers. Sur cette partie un peu internationale, Mustapha, je te laisse la parole.
Bon, tout d'abord, je voudrais excuser Monsieur le maire, Alain Claës, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Bon, je pense qu'il est retenu, pas à Poitiers, mais un petit peu plus loin de Poitiers. Simplement pour dire qu'en fait, la réalisation de cette exposition par l'Espace Mendès France sur les 400 ans de science au Québec, ça s'inscrit dans une démarche, je crois, qui a démarré au milieu des années 90. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années. Et c'est une démarche qui, en fait, se déroule autour de deux points. Le premier point, c'est celui de l'histoire des sciences et des techniques. Donc, avec un certain nombre d'actions qui ont été menées et qui font du centre un pôle qui est reconnu au niveau international, c'est l'organisation de conférences, l'organisation de séminaires, l'édition d'un certain nombre d'ouvrages, des expositions qui ont jalonné donc ce parcours. Et aussi l'existence d'un important réseau d'intervenants, à peu près une centaine de personnalités, tu me dis si je me trompe, voilà, un petit peu plus qu'une centaine de personnalités qui sont en fait issues de pratiquement toutes les disciplines. Et ça a constitué l'histoire des sciences qui sert de support à une interrogation qui est contemporaine et qui correspond en fait, et qui, enfin, cette interrogation s'interroge essentiellement sur la place de l'histoire des sciences dans notre société. Le second point qui est important, c'est un point qui est en fait lié à une assez forte activité dans le réseau francophone d'Amérique du Nord avec le Québec. Non seulement avec le Québec, mais avec le New Brunswick, avec la Louisiane. Il y a eu de nombreux contacts qui ont été noués au fil du temps avec les institutions d'enseignement supérieur, avec des musées, mais aussi avec des collectivités territoriales. Dans ce cadre-là, l'exposition qui est présentée à Poitiers va l'être aussi à Montréal, il me semble, à partir du 15 novembre. Et elle permet d'associer en fait la ville de Poitiers et Poitiers, les compétences essentielles de l'Espace Mendès France en matière de muséographie, en matière de culture scientifique, que ce soit ici à Poitiers ou au Québec. Donc, et en fait, ça va permettre très certainement de faire vivre la convention qui est passée, la convention dont tu viens parler, qui est passée avec Cœur de Science, et donc le Centre de culture scientifique de l'Université de Québec, UQAM, avec qui l'Espace Mendès France est lié. Donc les relations entre Poitiers et le Québec se manifestent au travers d'un voyage dans l'histoire des sciences qui aboutit à une meilleure connaissance des pôles de compétences actuels et qui doivent permettre très certainement dans l'avenir, de susciter des projets éducatifs, des projets culturels, mais également des projets économiques qui sont fondés sur l'innovation et la reconnaissance des savoirs et des savoir-faire de chaque côté de l'Atlantique. Je suis très heureux d'avoir que tu me donnes l'opportunité d'en parler, parce que lorsque j'étais chercheur au CNRS, j'avais des relations intéressantes et importantes avec les laboratoires d'électrochimie du CAM. Donc, ce sont des liaisons, des relations qui ont été très fructueuses, et je pense qu'ils continuent à être fructueuses pour le laboratoire dans lequel j'étais. Merci beaucoup.
Mmh. Merci Moustapha, parce que ça permet de rappeler aussi que finalement cette dimension historique, elle a une dimension aussi très très contemporaine. D'ailleurs, dans l'exposition, vous regardez les deux ou trois derniers panneaux permettent de mettre en évidence des compétences québécoises, mais qui ont un écho ici à Poitiers avec un certain nombre de compétences universitaires en termes d'enseignement et de recherche. Et je crois qu'il fallait le rappeler et dire aussi que nous avons été partenaires grâce à Yves Senatiempo et Olivier Coussy dont je parlais tout à l'heure, avec le Biopôle de Montréal, puisqu'on avait fait l'étude de préfaisabilité d'un centre de culture scientifique dédié à cette notion justement de biopôle et puis de biotechnologie. Donc pour des raisons budgétaires, financières, ce centre n'a pas encore vu le jour. Donc c'était autour de l'Institut Armand Frappier. Armand Frappier étant ce pasteurien qui a introduit au Canada, au Québec et au Canada cette méthode et qui finalement en est resté pour le moment à une action purement muséographique, mais l'institut en question compte beaucoup sur l'espace Mendès-France pour développer des choses. Donc on va continuer ce contact. Donc entre Poitiers, Montréal et le Québec, je crois qu'il y a des choses à faire. Il n'a pas de cravate, il n'a pas de nœud papillon, il a un chandail, mais vous avez devant vous, avec Yves, c'est le terme consacré, donc avec Yves Gingras, vous avez un grand de la science, hein, il est modeste, mais vous avez un grand de la science, donc chercheur et auteur prolifique. Yves aurait pu rester sur son champ classique de la physique. Et très rapidement, il s'est intéressé à la fois à l'histoire et à la sociologie des sciences qui l'a amené finalement à travers cette notion historique à s'interroger sur la place des sciences, comme Moustapha le rappelait tout à l'heure, sur la place des sciences dans notre société. Alors cette interrogation, elle est bien entendu politique, elle est bien entendu, je dirais, intellectuelle, philosophique, mais elle est également extrêmement concrète. Et dans son travail de recherche, Yves a mis en évidence un certain nombre de tenants et d'aboutissants de la manière dont les rapports entre enseignement supérieur, science et innovation peuvent se tisser pour faire d'un territoire un lieu d'excellence et un lieu de développement au bénéfice de tous. Donc je rappellerai simplement qu'il a été salué à plusieurs reprises à travers un certain nombre de prix. Simplement peut-être le prix Gérard Parizeau, moi je l'ai noté, qui est en fait un prix important de l'autre côté de l'Atlantique et qui saluait l'ensemble de l'œuvre de Yves Gingras ici présent. Et moi je voulais le remercier parce qu'au-delà de l'amitié qui s'est nouée entre nous, j'ai découvert à travers lui non seulement un homme de science, mais aussi un homme de divulgation des sciences et une remarquable plume. Et je n'ai pas d'action dans la maison, mais il y a un excellent livre qui devrait aider certaines institutions présentes dans cette maison, je ne sais pas le CNDP au hasard, Monsieur Portelli, à éditer des choses qui permettent d'un peu mieux valoriser auprès de nos concitoyens, mais au sein de la communauté scientifique, des éléments qui structurent l'histoire des sciences en France. Et je pense que la conférence de ce soir qui sera donnée aussi à Montréal est une étape dans cette relation et une étape dans de futurs projets. Donc je vous demande de saluer Yves Gingras. Merci Yves de cette présence. À l'issue de cette présentation, nous nous retrouverons, comme il est de coutume, dans cette maison de tradition, à la cafétéria pour le verre de l'amitié. Donc Yves, la parole est à toi.
Merci infiniment. Je suis très honoré de votre invitation. Ça me fait énormément plaisir. Et je profite de cette introduction pour remercier les artisans de l'espace Mendès-France et ceux qui ont travaillé de très près à l'exposition que vous avez vue. Parce que, bon, bien sûr, moi, je suis essentiellement un historien et un sociologue des sciences. Je ne suis pas un muséologue. Donc, j'ai fait confiance totalement à l'équipe pour dire, moi, je vais valider les contenus, mais vous vous occupez de rendre ça accessible, visible. Vous pouvez couper mes textes s'ils sont trop longs et changer les images si vous ne les aimez pas. Et donc, la marque de l'expo est clairement la marque de l'espace Mendès-France. Moi, j'ai tenté de prendre le livre qu'on a fait et de le transformer en 16 panneaux qui donnent un panorama de la transformation des sciences dans une société neuve. Parce que je pense qu'il est très rare qu'un historien ait la chance de pouvoir travailler à partir des origines au sens strict, l'âge zéro. Hein? On peut dire qu'en 1600, ici, on a une très belle carte d'un cartographe français qui est l'ingénieur du roi dépêché en Nouvelle-France pour cartographier la Nouvelle-France, donc Jean-Baptiste Louis Franklin, mais qui a dû quitter assez rapidement le Québec dans les années 1690 parce qu'il était criblé de dettes et tout comme il ne voulait pas payer ses dettes. Il dit, bon, pour moi, c'est plus simple de retourner en France que de payer ses dettes dans une Amérique où le réseau de flics n'est pas assez développé pour lui mettre le grappin dessus. Donc, on a une chance de partir d'une société totalement neuve qui doit se construire ex nihilo. Et donc, d'abord, découvrir son environnement, donc conquérir la nature. Et un qui a joué un rôle très important, bien sûr, c'est Michel Sarrazin, qui est donc médecin du roi, correspondant de l'Académie des sciences à Paris et qui travaille en Nouvelle-France et donc qui permet de faire le lien avec la connaissance de la Nouvelle-France, la connaissance de la faune, la connaissance de la flore. Et ici, par exemple, on a des planches anatomiques du rat musqué, donc une bibite qu'il a trouvée suffisamment intéressante pour la disséquer et nous dire que ça sent le diable lorsqu'on fait la dissection, et d'écrire un texte que Réaumur va présenter à l'Académie des sciences. Donc, c'est vraiment la conquête de la nature, c'est de dire on est dans un monde nouveau. Qu'est-ce qui nous entoure? Bien, il nous entoure de la faune, il nous entoure de la flore et des minéraux. Et tous les gens qui n'ont pas une fonction strictement scientifique, mais par exemple, le gouverneur général de la Nouvelle-France, Roland-Michel Barrin de la Galissonnière, a simultanément comme fonction de dire à ses milices, bien, en plus de vous, lorsque vous allez à la recherche peut-être de quelques Indiens, si vous ramassez quelques plantes, voici un guide qui va vous décrire comment conserver ces plantes-là dans votre chemin. Donc, ce n'est pas votre fonction prioritaire. Vous êtes d'abord une milice, mais c'est quand même curieux. On lui donne ordre, simultanément un ordre officiel, de ramasser des plantes qui sont intéressantes et qu'ensuite on va envoyer par bateau en France parce que le jardin des plantes a comme fonction d'être au courant de toute la flore à travers le monde. Pourquoi? Pas d'abord, comme on pourrait peut-être le penser, pour de la recherche fondamentale, mais les plantes, c'est de la médecine. Donc, les botanistes, c'est d'abord, au fond, des médecins. Les plantes sont médicinales. On revient de nos jours à cette idée donc, de médecine des plantes, mais bon, on ne fait que retourner à nos origines. La médecine, ce n'était que de trouver des produits actifs, sans le savoir trop, dans différentes plantes. Donc, cette découverte de la flore qui se fait de façon informelle, non institutionnelle, pendant la période de la Nouvelle-France, doit ensuite trouver une autre forme. Si la société se construit, la société doit se construire sur des institutions d'éducation. Il n'y a pas de société sans école. C'est bien pour nous, mais c'est essentiel pour les sociétés. Et donc, rapidement, donc en 1635, on crée le Collège des Jésuites de Québec, et c'est donc la première école en Amérique du Nord. Parce que lorsqu'on parle de Harvard, du collège de Harvard, qui va devenir l'université Harvard, s'est créé en 1636, donc une année après le Québec, 1635, qui est vraiment le début de l'enseignement des collèges classiques en Nouvelle-France. Et ici, on a une très belle image qui date de 1761, qui est donc immédiatement après la conquête, hein, en 1761. 60, le Québec, et donc, non pas le Québec, mais toute l'Amérique qu'on a vue sur la carte de Franklin, est cédée à l'Angleterre. Ça veut dire que là, on passe au Québec dans une période socialement et politiquement radicalement nouvelle, et le Collège des Jésuites va donc devenir tout d'abord un lieu pour la milice britannique, et donc il n'y aura plus d'enseignement au Collège des Jésuites pendant un certain nombre d'années. Et comme l'école, c'est le lieu de construction de la société, ce sont les collèges classiques qui vont prendre la suite, alors que les collèges avaient d'abord été créés pour former des prêtres, parce que c'est des curés qui s'en occupaient, on comprenait. Et donc, ils ont accepté, on peut dire, de modifier leur fonction essentielle et de produire, je dirais, la bourgeoisie local, donc de produire ceux qui vont devenir des notaires, des avocats, des médecins, et non pas uniquement des curés. Et donc, comme on enseigne bien sûr de la science, et ici, par exemple, on a les notes de cours d'astronomie du début du 19e siècle, qui nous donnent une idée de ce qu'on devait enseigner quand même depuis un siècle probablement, parce qu'on a tendance aujourd'hui, dans notre âge d'un mouvement rapide et à changement technologique, à s'imaginer que les choses changent rapidement, ce n'était pas le cas au 17e siècle. Parce que même dans les collèges des Jésuites dans toute l'Europe, l'enseignement est le même. C'est fondé sur le ratio studiorum, qui est le code d'enseignement des collèges des Jésuites qui est écrit dans les années 1590 et tous les collèges des Jésuites à travers le monde. Parce que les Jésuites, c'est le premier réseau international de savants qui vont s'échanger de l'information à travers les fameuses relations des Jésuites qui font savoir en Nouvelle-France ce qui se fait en Europe et en Europe ce qui se fait en Nouvelle-France. Fait qu'on voit ici qu'on enseignait, donc au début du 19e siècle, les différents systèmes astronomiques, le système de Ptolémée, bien sûr, l'ancien qui était considéré par l'Église le meilleur, le système de Copernic, qui est le système révolutionnaire, mais qui ne sera pas accepté dans l'enseignement avant le milieu du 18e siècle. Et pour donner une idée que même si l'enseignement se fait davantage par des notes de cours que les étudiants retranscrivent, en 1815, on a ici les notes de cours du séminaire de Québec. Et donc, 1815, c'est peu de temps, parce que bon, la pile électrique de Volta est inventée en 1801, et c'est incorporé donc, dans les enseignements de l'époque à travers des notes de cours qu'on imagine justement mises à jour de façon assez régulière, mais qui ne deviennent pas des manuels. Les professeurs des collèges croyaient que, étant donné le marché relativement limité, il était beaucoup plus simple de faire copier aux étudiants. Donc, on retrouve, par exemple, des notes de cours du séminaire de Québec à l'extérieur de Québec, dans d'autres séminaires, ce qui suggère qu'on pouvait, dans des lieux moins bien équipés en professeurs mieux adaptés, prendre les notes de cours du séminaire de Québec, qui étaient peut-être plus à jour que celles du séminaire de Nicolet. Et quand je dis qu'après 1760, on a donc l'arrivée à Québec d'une bourgeoisie anglophone, tranquillement la société se développant, à partir du début du 19e siècle, on a donc une bourgeoisie locale. Et qui dit bourgeoisie locale dit lieu de rencontre, hein, lieu de sociabilité. C'est donc la création, à partir des années 20, de sociétés savantes. La première, en 1823, c'est la Literary and Historical Society of Quebec, parce que ça rappelle clairement qu'en 1820, la bourgeoisie de Québec est anglophone. Et le caractère d'abord francophone dominant va uniquement arriver dans les années 1850, où pour des raisons démographiques, les francophones à la ville de Québec vont devenir majoritaires. Mais donc, les premières sociétés littéraires sont celles où on retrouve les capitaines britanniques, les médecins britanniques qui se rencontrent pour discuter à la fois de choses littéraires, historiques, mais aussi, au sens large, l'histoire naturelle. Donc, il y a beaucoup de conférences sur les plantes, un peu comme c'était le cas indirectement en Nouvelle-France, où on recueillait les connaissances locales. Mais cette bourgeoisie locale se développe donc une certaine conscience locale. Et, par exemple, on crée en 1806 le premier journal qui s'appelle le Canadien, et qui, parce que le mot le Canadien, ça veut dire, au fond, les francophones. Donc, le Canadien, la création en 1806, c'est de dire maintenant, à côté des anglophones de Québec et des anglophones de Montréal qui contrôlent l'économie pour des raisons évidentes, parce qu'on est en lien avec l'Angleterre qui a donc, bien sûr, amené son réseau de relations, c'est tout à fait normal, la bourgeoisie francophone s'est construite en parallèle et s'est dotée d'institutions qui vont être, par exemple, l'Institut canadien de Montréal, la Société du bon livre, des journaux, des revues, et c'est ce qu'on voit un peu sur les panneaux de l'exposition. Et donc, on a ici, en 1841, le premier petit manuel de physique qui est fait au Québec. Alors que, bien sûr, toutes les notes de cours jusqu'au, disons, dans les années 30, 1830, les notes de cours, lorsqu'on fait leur étude plus détaillées, c'est des notes qui sont fondées sur des manuels de physique français. Donc, c'est tout à fait normal. Les bibliothèques font venir les livres français et les professeurs, à partir de 3-4 manuels de physique français, concoctent des notes de cours locales. Et donc, la création du manuel, qui est d'ailleurs intéressant, parce que le manuel de Cochon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui étudie au séminaire de Québec, qui suit donc son cours de physique, mais qui devient ensuite avocat, comme tout bon francophone du milieu du 19e siècle, et qui devient politicien, maire de Québec, et c'est le petit côté qui m'intéresse sentimentalement, il est député de Montmorency, et Montmorency, c'est tout près de Québec, c'est là que les fameuses chutes Montmorency, moi je suis originaire des chutes Montmorency, donc on a le droit d'être chauvin un peu en disant que Cauchon a fait le premier manuel de physique. C'est peut-être pour ça que je suis devenu physicien ensuite, sans le savoir, de façon inconsciente. Et ici, on a donc, en 1852, la première promotion définissant du séminaire de Québec, 1852, étant la création de l'Université Laval. Et là, on voit une autre étape dans la consolidation d'une société. La première étape des écoles, on avait les collèges classiques. Ensuite, entre 1800 et 1850, les collèges classiques vont se multiplier à travers la province. Donc, on va avoir les collèges de... J'oublie les endroits, mais bon, bien sûr, le collège de Montréal, mais le collège de Nicolet, le collège de Trois-Rivières, le collège de Saint-Hyacinthe. Donc, le Québec, en dehors des deux grands lieux, Québec et Montréal, va devenir un lieu où on va avoir des lieux locaux, les collèges classiques. Mais pour chapeauter les collèges classiques, qui en France sont chapeautés donc par le baccalauréat, et le baccalauréat est décerné par l'université. Et donc, l'Université Laval est créée en 1852 comme étant l'institution qui manquait pour fédérer les collèges classiques, qui, eux, étant des institutions complètement indépendantes. Et avec l'Université Laval, il y a une entente avec les collèges classiques qui doivent s'affilier à l'Université Laval. Et donc, le baccalauréat S.A.R., le baccalauréat S.Sciences, tout comme en France, est décerné par l'Université Laval. Donc, à ses débuts, l'université n'est pas un lieu comme aujourd'hui d'enseignement comme tel et de recherche, mais un lieu où on estampille par les examens, qu'on pourrait dire nationaux, indirectement, la validité du diplôme terminal des collèges classiques. Mais lorsqu'on crée l'Université Laval en 1852, on est bien sûr en train de partir de zéro. Et donc, il faut briser la chaîne et pour ça, on doit importer des professeurs. Ici, on a un exemple donc, de Thomas Terry Hunt, qui est un géologue américain d'origine et qui a été professeur donc, de chimie à l'Université Laval et qui a travaillé aussi à la commission géologique qui, elle, était à Montréal. La commission géologique a été créée à Montréal au début des années 1840. Et il va déménager à Ottawa, où elle est actuellement, uniquement en 1867, avec la Confédération canadienne. Mais au début, bien sûr, dans les années 1840, le centre économique de l'Amérique du Nord, donc de ce qui va devenir le Canada, c'est Montréal. Ce n'est pas Québec, qui est une ville, au fond, plus de fonctionnaires gouvernementaux même à l'époque, parce que le centre économique du 18e siècle est à Québec, mais à partir des années 30, et 1840, et encore pire, à partir des années 1850, le développement des chemins de fer, ça va devenir Montréal, le centre économique. Donc, on va former, ou bien on va former localement des professeurs, comme le séminariste qui va aussi devenir le professeur de physique, monsieur Monseigneur, et ensuite Monseigneur, bien sûr, Monseigneur Joseph Clovis Laflamme, qui est formé au séminaire de Québec, et qui ensuite va devenir lui-même professeur de physique. Dans d'autres cas, comme l'abbé Thomas-Étienne Hamel, on va l'envoyer à Paris à l'école des Carmes, parce qu'il faut surveiller que c'est un endroit catholique pour qu'il revienne encore curé. Et donc, il va revenir de Paris après avoir une licence en mathématiques ou en physique. Et donc, on voit là que la création des institutions va se fonder sur une collaboration avec la France de façon indirecte et informelle en envoyant des Québécois ou des francophones obtenir un complément de formation, parce que la formation du collège, du séminaire avait une limite, et pour enseigner de façon universitaire, on devait hausser le niveau de formation. Et les collèges de l'époque vont se doter de toutes les techniques d'enseignement. Ici, on a un cas typique d'un beau musée de minéralogie qui est immense. Je me demande toujours, quand je vois cette photo-là, où sont tous ces spécimens à l'Université Laval actuellement. Je ne sais pas s'ils existent encore ou s'ils ont été jetés par les fenêtres. Mais c'est une collection absolument extraordinaire qui montre que dans les collèges classiques, on avait quand même des ressources. Et ici, on a un autre, j'espère que je l'ai mis, mais oui, encore plus extraordinaire, le musée de zoologie. Je ne sais pas où sont devenues ces bibittes, peut-être qu'elles sont retournées dans le bois, mais c'est immense, c'est immense. J'avoue que je n'ai aucune idée de ce qui est devenu de ces collections absolument extraordinaires qui coûtent cher à tenir à jour, donc on l'a peut-être fait disparaître pour sauver des coûts, comme diraient nos recteurs actuels. Et pour montrer aussi que la science, à l'époque, n'était pas incompatible avec la religion, on a bien vu que l'abbé Laflamme, l'abbé Hamel sont des professeurs. Mais toute la science de l'époque ne se fait pas uniquement dans les institutions d'enseignement. Donc, je prends le cas de l'abbé Léon Provencher, qu'on voit sur une des images, qui est vraiment quelqu'un qui a fait une œuvre absolument monumentale sur les coléoptères, les lipidoptères et toute une série de bibites et fourmis aussi. Et donc, il a publié en 1863, on voit la photographie, la première faune canadienne. Et Provencher, qui est un curé de campagne, donc qui vivait à Portneuf, dans son trou perdu, et que c'était quelqu'un de mal commode, à tel point que les gens de, comment dirais-je, ses sujets ont fait une plainte au Monseigneur en disant l'abbé Provencher est insupportable. Donc, l'archevêque a décidé de donner une retraite avancée à l'abbé Provencher, qui a pu se consacrer tout le restant de ses jours aux coléoptères qui, eux, n'ont pas formulé de plainte officielle contre ses comportements. Et donc, on a un cas là, de quelqu'un qui, de façon autodidacte, a construit un réseau international de collaborateurs avec qui il a échangé des spécimens de coléoptères qu'il envoyait aux États-Unis. Et donc, le fait d'être isolé à l'époque, au milieu du 19e siècle, était une pratique de la science qui était acceptable et qu'on pouvait faire. Ce qui ne sera plus le cas à partir, en gros, du début du 20e siècle et va devenir impossible après les années 1950. Au même moment où donc on crée l'Université Laval en 1952, en 1852, le Canada est en plein donc, développement industriel. Et le développement industriel est d'abord dominé par les élites anglophones. Donc, l'Université McGill, qui n'a aucune importance stratégique, qui est un peu laissée en friche de 1823 jusqu'au début des années 1850, les dirigeants de McGill décident de faire une réforme majeure et donc nomment John William Dawson, qui vient de Nouvelle-Écosse, le principal de McGill, donc le recteur au fond. Et donc lui va faire de McGill une institution internationalement reconnue dans les sciences. Il va vraiment mettre sur la carte l'Université McGill. Et le premier objectif de Dawson, c'est de créer un programme d'enseignement de génie civil. Parce que 1850, on est en train de créer le système ferroviaire. Il nous faut donc des ingénieurs civils et on n'avait pas de formation d'ingénieurs civils. Il faut rappeler que pendant longtemps, les ingénieurs, c'est une formation sur le tas, ce n'est pas une formation diplômée officiellement. Donc, le premier programme qui met de l'avant les sciences à McGill, c'est le programme de génie civil qui est créé dans les années 1853-1854. Mais de façon intéressante, la demande étant pas très élevé, le programme ferme vers 1861. Il va repartir ensuite dans les années 1870. En parallèle, donc à partir de 1870, là, c'est le véritable décollage qui va faire que les écoles de génie vont pouvoir avoir suffisamment d'étudiants pour survivre. L'École polytechnique de Montréal, du côté francophone, va être créée en 1873. Et donc, on va avoir donc deux écoles de génie, l'École de génie de McGill et l'École polytechnique de Montréal, qui, comme on l'a vu pour l'Université Laval, va faire venir de France un certain nombre de professeurs. Et donc, à McGill, il y a une certaine âge d'or. C'est le fait que McGill, étant bien sûr à Montréal, anglophone, fait partie de des colonies britanniques. Et donc, lorsque McGill cherche un professeur, ils n'ont qu'à envoyer un télégramme à l'Université de Cambridge et leur demander un bon prof. Le hasard des circonstances a voulu que lorsqu'ils cherchent un bon professeur en 1897, Rutherford, qui est un néo-zélandais, qui est donc allé faire ses études à l'Université de Cambridge, dans le laboratoire Cavendish, sous la direction de J.J. Thomson, qui, l'année justement où ils ont reçu le télégramme en 1897, venait de découvrir l'électron. On lui dit, ben, ça tombe bien, j'ai un électron libre, Rutherford, et il est prêt à se rendre, finalement, au lieu de retourner en Nouvelle-Zélande, colonie pour colonie, allons à Montréal. Et donc, c'est ce qui fait que c'est le fruit, je dirais, donc du colonialisme et du hasard, que McGill a pu avoir quelqu'un dont tout le travail va mener en 1908 à l'attribution du prix Nobel de chimie à Rutherford. Donc, tous les travaux de Rutherford qui mènent au prix Nobel de chimie de 1908 ont été faits dans ce petit labo très peu équipés, avec des bouts de fil. On est loin de la big science. On faisait des découvertes importantes sur les atomes, sur la désintégration atomique, avec des bouts de ficelle et très peu d'argent. Et très peu d'argent, mais il fallait de l'argent quand même. Or, au début du siècle, les ONR, l'Agence nationale de recherche, ça n'existe pas. Les universités font de la recherche à temps perdu et avec l'argent trouvé. Et pour trouver de l'argent, il faut des mécènes. Or, McGill avait un mécène, William MacDonald, qu'on appelle le roi du tabac, parce que le tabac, MacDonald, c'est lui. Et comme il était riche à craquer, il a donné à l'Université McGill des millions. Et donc, ici, on a, par exemple, le MacDonald Physics Building, qui a été construit en 1890 et qui, à l'époque, était le laboratoire de physique le mieux équipé au monde. Et donc, Rutherford savait qu'en allant là, il y avait un laboratoire top-notch à travers le monde. Et donc, c'est dû au fait qu'il y avait de l'argent. Mais de l'argent, on n'en a pas toujours. De sorte que, par hasard, lorsqu'en 1907, Rutherford retourne en Angleterre, parce qu'il faut bien voir que l'avantage du colonialisme, c'est de pouvoir, effectivement, être dans un réseau qui nous mène avec le centre. Mais le centre, quand il nous envoie des gens qui sont bons, que ce soit à Montréal ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le centre garde un œil sur ses scientifiques. Et si en Nouvelle-Zélande, il y a quelqu'un de bon, on le laisse là pendant 5 ans, ensuite on le ramène en Angleterre. Donc, en 1907, on a compris que Rutherford, il fallait bien le ramener en Angleterre et on l'a ramené donc à l'Université de Manchester. À tel point que John Schuster, qui était un grand physicien britannique à l'Université de Manchester, a bien dit, Rutherford, je prends ma retraite si et seulement si tu acceptes le poste. Si tu restes à Montréal, moi je reste professeur à Manchester, mais si tu veux prendre ma chaire, parce qu'à l'époque c'était des chaires, donc ils ne pouvaient pas s'asseoir deux sur la même chaire, surtout qu'il n'y avait pas de femme à l'époque, donc c'est encore pire. Il y aurait pu deux s'il y avait un gars de fille, mais non, il y avait juste un. Et donc, Rutherford retourne en Angleterre en 1907, et donc, c'est la perte pour McGill. Et là, ça va très mal pour McGill, parce que la même année 1907, le feu prend dans le McDonald Engineering Building, qui est juste à côté, et le feu se propage en partie à une aile du McDonald Physics Building. Ce qui fait que les ressources économiques de McGill tombent à peu de choses, et ils ont failli, et c'est ce qui fait qu'ils ont perdu un des grands physicien, que maintenant on sait qu'il est grand, mais à l'époque, on devinait, qui est un physicien qui est William Bragg. Bon, on pense à la diffraction de Bragg. Bragg était en Australie et Rutherford avait dit, je pars de McGill. Bon, c'est l'époque des grands où on trouve son remplaçant. Les époques ont changé. Aujourd'hui, quand je prends ma retraite, c'est pour moi qui décide qui me remplace. Mais donc, Rutherford dit, OK, je pense qu'on devrait que McGill devrait prendre Bragg, qui est en Australie, qui est prêt à venir. Mais lorsque le feu prend, les ressources de McGill tombent à rien et McGill ne peut pas se payer l'engagement de Bragg. Donc, Bragg reste en Australie. Donc, on voit très bien que les physiciens de l'époque étaient dans un réseau international et que la circulation se faisait en fonction des ressources. Donc, c'est vraiment la fin de l'âge d'or. Pour des raisons encore là contingentes, le feu qui a diminué les ressources de McGill. Ce qui nous amène à une autre étape du développement maintenant chez les francophones, c'est qu'après la Première Guerre, il y a une nouvelle phase d'industrialisation, mais qui est une phase d'industrialisation fondée non pas sur les chemins de fer comme la première, mais sur l'industrie chimique et hydroélectrique. Ce qui amène les gens à réaliser que l'université doit créer une école supérieure de chimie et aussi une école des mines. Donc, l'école des mines va être créée en 1937, l'école de chimie en 1920. Et là aussi, un peu comme on a vu dans les années 1850, la première école supérieure de chimie a besoin de professeurs. Bon, bien sûr, par définition, il n'y a pas de professeurs locaux parce qu'il n'y avait pas d'université pour les créer. Donc, on fait venir, à ce moment-là, non pas de Paris ni des Carmes, mais de l'Université catholique de Fribourg, parce que l'Université Laval est toujours catholique. Et 1920, c'est 15 ans après la loi Combes en France, où le gouvernement français a décidé de couper les liens officiels avec les nombreuses communautés religieuses et avec l'Église. Donc, il est probable que, alors que dans le passé, l'Université Laval allait chercher ses professeurs ou envoyait ses professeurs à Paris, le réseau nouveau qui s'est créé avec l'Université catholique de Fribourg était peut-être lié à une mémoire où les catholiques québécois, à l'époque, dans la haute direction, voyaient d'un mauvais œil la France qui, en 1905, avait donc coupé la tête au curé. Et lorsque ces institutions-là sont créées, il faut créer des sociétés savantes. Donc là, on est en 1923 et on voit ici Léo Parizeau, qui avait été formé en électrochimie en France, donc, et qui s'est occupé aussi des rayons X. D'ailleurs, il meurt du cancer, parce qu'au début, les rayons X, on joue avec ça sans trop savoir que c'est hyper dangereux. Les doses sont inconnues, les intensités sont aléatoires, et donc ces gens-là sont souvent morts du cancer. Mais ça a été un pionnier très important qui a été le premier président de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, qui est l'équivalent de l'Association française pour l'avancement des sciences, qu'elle avait été créée dans les années 1870-1872. Et l'ACFAS est donc créée en 1923, et on voit ici toute l'équipe autour du frère Marie-Victorin, qui, dans les années 20, est vraiment le porte-parole de la communauté scientifique francophone. C'est quelqu'un d'une énergie énorme, d'un franc-parler et d'une puissance rhétorique très forte, et c'est lui qui va réussir à faire créer l'École des mines, c'est lui qui va réussir à créer le Jardin botanique de Montréal, et donc c'est quelqu'un de très fort. Mais encore une fois, lorsqu'on développe les sciences dans les années 20, on n'a pas suffisamment de ressources. Marie-Victorin peut être professeur de botanique, Léo Parizeau peut enseigner l'électrochimie, l'électrophysique et un peu de physique, mais pour la biologie formellement, on va faire venir du collège Stanislas, d'abord Louis-Janvier d'Albis, qui va jouer un rôle important dans les relations France-Québec, parce qu'il va créer en 1926 l'Institut scientifique franco-canadien, dont la fonction explicite est d'organiser des échanges avec des professeurs français qui viennent, dans 2-3 mois, donner une série de 15 séminaires en biologie, qui en immunologie, qui en physique. Léon Brioin en physique, par exemple, va donner une série de cours. Jean Cabane, un autre physicien, va venir donner une série de cours à l'École polytechnique ou à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval. Donc, l'ISFC est l'organisation qui a relancé les liens plus étroits entre les chercheurs, les professeurs français et les professeurs québécois. Un autre de ces instituts qui est une relation directe des relations France-Québec, c'est l'Institut du radium. Créé en 1923 en relation directe avec l'Institut du radium de Paris, l'Institut du radium de Montréal, qui est le premier en Amérique du Nord, qui est vraiment le fruit des réseaux qui, parmi les médecins, avaient été tissés dès la fin du 19e siècle avec toute une série de médecins français, médecins québécois, qui étaient allés étudier à l'Institut Pasteur et qui étaient revenus ensuite pour devenir le doyen de la faculté de médecine et donc institutionnalisés sous ces liens informels qui avaient été créés par des formations à l'étranger. Et là aussi, donc, on a les pionniers de la première faculté des sciences, qui est une reconnaissance formelle des travaux entrepris informellement dans les années 20, et la faculté des sciences de l'Université Laval, écrite en 1936, et Joseph Rizzi est le premier professeur qu'on avait fait venir en 1920 pour créer l'école, et venait de l'Université catholique de Fribourg. Cyrias Ouellet, c'est un Québécois, mais qui est allé faire son doctorat à Fribourg. Donc, il s'est développé comme ça des réseaux qui allaient dans les deux directions. Et pour montrer que lorsqu'on crée des nouvelles choses, il faut toujours aller chercher des ressources à l'étranger, en 1939, c'est au tour de créer maintenant, maintenant que la chimie est bien installée, l'idée, c'est de créer maintenant un bon département de physique où on fait de la recherche. Donc, si au milieu du 19e siècle, l'université s'installe, c'est d'abord un lieu d'enseignement. Ça va devenir un lieu de recherche plus tard, et le hasard veut encore une fois qu'en 1939, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lorsque Franco Razetti de Boss, qui est le grand mince, évidemment, se sauve à la course de l'Italie fasciste, Cyrias Ouellet, qui est sur la photo aussi au bout, qu'on a vu dans la photo d'avant, est au courant par ses réseaux d'amis qu'on pourrait faire venir Razetti à Québec. Et Razetti est italien, mais Razetti parle français. Et donc, il devient le directeur du département de physique de l'Université Laval, qui va mettre immédiatement en place toute une équipe de recherche en physique nucléaire, parce que Razetti, lorsqu'il était à Rome, travaillait avec Fermi sur la diffusion des neutrons. Et donc, le premier expertise de recherche du département de physique de l'Université Laval va être sur la physique des neutrons et ensuite sur les mésotrons, donc les rayons cosmique, qu'on appelle aujourd'hui, c'est un autre nom, sous le nom de maison. Mais on voit bien qu'il y a des conjonctures contingentes qui expliquent l'émergence d'une tradition de recherche. Il n'y aurait pas eu de guerre, il est peu probable que Razetti aurait quitté Rome. Et on pourra donner d'autres exemples comme ça. Par exemple, il y a tout un très grand nombre de Français qui, vers 1940, ont quitté la France pour aller aux États-Unis, aller à New York. Et ces gens-là, ensuite, étaient dans le réseau de l'Université de Montréal. Certains ont enseigné pendant plusieurs années à la faculté de médecine. D'autres sont venus de New York simplement pour quelques conférences, toujours dans le réseau de l'Institut scientifique franco-canadien. Et donc, le laboratoire secret de physique nucléaire à l'Université de Montréal contenait un bon nombre de chercheurs français. Et on a fait le laboratoire britannique, américain et canadien entre 42 et 44 à l'Université de Montréal, parce que c'était un lieu neutre pour les Américains et les Britanniques. Et il y avait aussi une expertise française sur l'eau lourde, parce que les travaux sur l'eau lourde de Joliot-Curie, ça donne qu'il y avait un Québécois, Pierre Demers, qui était en 1937 à Paris pour travailler avec Curie. Donc, il y a tout un réseau qui, à travers le Québec, a créé le lien avec la France et les États-Unis. Bien sûr, dans les années 30, on parle d'université, on parle de recherche, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement doit aussi se doter d'institutions de recherche pour connaître les ressources naturelles. Donc, ici, on a l'annonce en grande pompe en 1937 dans le journal local que bon, le gouvernement du Québec vient de mettre au point, vient d'ouvrir un grand laboratoire très moderne pour l'analyse des mines. Parce que, bien sûr, le développement économique nécessite de la recherche. On a tendance à l'oublier, mais même à l'époque, on le reconnaissait. Il n'y a pas de développement économique sans développement scientifique. Voici justement, je ne croyais pas qu'elle était là, l'Université de Montréal en pleine construction, et c'est dans une de ses ailes qu'il y avait le laboratoire secret qui était bourré de gens, y compris des espions. Par exemple, c'est dans le laboratoire secret de l'Université de Montréal que Alan Nonmé, qui est un chercheur britannique, mais qui est un espion soviétique, et Bruno Pontecorvo, qui était aussi un chercheur qui travaillait dans le laboratoire secret, s'est fait dénoncer en 1945. Donc, le lancement officiel de la guerre froide, soit dit en passant, c'est l'annonce à Ottawa par un bureaucrate soviétique, Igor Gutsenko, qui va dans une conférence de presse avec un sac sur la tête et qui annonce que les laboratoires canadiens à McGill, à l'Université de Montréal, sont infiltrés par des agents soviétiques. Ça, c'est 1945, donc immédiatement, la guerre, je n'ai pas la date, mais je pense que techniquement, la guerre n'est peut-être même pas encore terminée à certains endroits. Et donc, c'est le lancement officiel de la guerre froide. Quand on parle de science, on a parlé donc de formation, on a parlé d'enseignement, de mise en place de la recherche, mais pour que la recherche se développe à long terme, il faut une relève. Donc, très rapidement, des gens comme Marie-Victorin et son équipe ont compris que c'est beau avoir créé une faculté des sciences, mais si la relève n'est pas là, ça va s'arrêter à la première génération. Donc, si la première génération de chercheurs canadiens-français est bien celle qui émerge dans les années 20, c'est des gens qui voyaient loin et qui ont créé des organismes pour les jeunes. Ici, on a l'Exposition provinciale de sciences en 1938 et on voit les cercles des jeunes naturalistes. C'est toute une organisation, on les voit sur les panneaux, qui a été lancée en 1931 pour amener les gens à s'intéresser aux sciences. Et lorsque, par exemple, Marie-Victorin construit le Jardin botanique de Montréal, le Jardin botanique de Montréal, c'est à la fois un lieu de recherche et un lieu où on laisse des jardins pour les enfants. Et il avait bien compris, comme il le disait lui-même, qu'il faut s'attaquer aux deux bouts de la chaîne. La chaîne de la recherche avancée à travers des laboratoires bien équipés et, dès la maternelle, s'assurer que les jeunes sont initiés à la nature et ensuite, ils vont peut-être devenir plus des scientifiques. Et donc, non seulement on le fait par des organisations comme les cercles des jeunes naturalistes, qui sont l'équivalent des scouts, mais on le fait dès 1941 par la radio. Donc, on crée une série qui s'appelle Radio Collège, où Marie-Victorin va s'occuper d'une série qui s'appelle La Cité des plantes. Donc, à la radio, à chaque semaine, il va faire une conférence sur les plantes. Un professeur de l'École polytechnique qui vient de France au début du 20e siècle, qui est Louis Bourgoin, va donner pendant entre 1941 et 1946 toute une série de cours d'histoire des sciences, des cours sur les grands savants, qui va publier ensuite sous forme de livre. 1946, ça prend une nouvelle forme, c'est la revue de vulgarisation proprement dite, et on a ici, en 1946, donc la revue Science et Aventure, qui va fermer au bout de 2 années, parce que bon, le marché n'était pas ce que l'auteur croyait, mais en 1951, un autre, le frère Brossard, des Clercs de Saint-Viateur, qui était très actif dans les cercles des jeunes naturalistes, donc 1931, s'aperçoit que créer une revue qui s'appelle Le Jeune Naturaliste, qui parlerait en partie des cercles des jeunes naturalistes, mais qui serait diffusée de façon plus large. Et donc, une revue qui, en 1951, elle va perdurer. Elle va devenir d'abord, en 1961, le jeune scientifique, parce que, bien sûr, au début, on s'est dit, les jeunes naturalistes, les plantes, c'est bien, mais maintenant, on a aussi des jeunes qui veulent faire de la chimie, des jeunes qui veulent faire des mathématiques et faire de la physique. Donc, l'ACFAS, qui existe toujours, et qui, d'ailleurs, a commencé en 1923 par des conférences scientifiques dans les collèges. 10 ans plus tard, s'est aperçu que la recherche était suffisamment développée, et à partir de 1933, de façon interrompue jusqu'à nos jours, l'ACFAS organise le congrès annuel de l'ACFAS sur le principe de la BAAS et de la AAAS, donc à chaque année, dans un endroit différent. L'ACFAS fait son congrès au mois de mai, dans lequel d'ailleurs il y a des centaines de collaborateurs français qui collaborent avec des chercheurs québécois qui viennent pour présenter leurs travaux. Donc le congrès de l'ACFAS annuel réunit aujourd'hui 5000 personnes environ, que le congrès soit à Montréal, à Trois-Rivières ou à Québec. Donc l'ACFAS, qui a vu que peut-être que le jeune naturaliste peut-être avait de la difficulté à survivre, prend en charge la revue à condition de changer le titre et de l'appeler le jeune scientifique. Fin des années 60, le journalisme scientifique est suffisamment développé pour que la communauté scientifique incarnée par l'ACFAS dise, bon, nous, on a fait notre effort de scientifique, de populariser la science, mais maintenant, fin des années 60, on est beaucoup plus pris dans nos laboratoires, c'est peut-être pas notre fonction de faire de la vulgarisation. Donc, ils vendent la revue qui devient Québec Science et qui, là, c'est une revue qui devient vraiment gérée par des journalistes scientifiques, par des communicateurs scientifiques. D'ailleurs, au début des années 60, l'Association des communicateurs scientifiques s'était mise en place comme groupe de journalistes autonomes. Et donc, c'est l'évolution naturelle de cette spécialité-là qui rencontre le fait que les scientifiques se sentent un peu plus pris par des demandes de subventions, moins de temps pour faire de la vulgarisation, que la scission entre l'ACFAS et le jeune scientifique se fait, qui émerge avec la création de Québec Science, donc en 1969. À partir des années 70, je dis, les institutions sont créées, sont stables, se développent, et il y a une reproduction naturelle et normale qui n'existait pas avant les années 1920. Donc, c'est la première demi du 20e siècle, c'est une période de création, et ensuite, c'est les étapes habituelles, et on tombe dans la big science, qu'on pense au tokamak de Varenne, qui est avec l'INRS, qui est actif en 87. Ensuite, la construction de l'observatoire du Mont-Mégantic, ce qui veut dire qu'à l'Université Laval, il n'y aura pas uniquement la physique nucléaire, mais maintenant de l'astrophysique, à l'Université de Montréal aussi. Et donc, la spécialisation des sciences, le spectre de toutes les spécialisations, va se retrouver, comme partout, dans toutes les universités. Et dans les périodes actuelles, la dernière, c'est la période où on parle de mondialisation de la science, d'internationalisation de la science. Et ici, on voit la courbe de 1980 à nos jours. On a donc la proportion des articles scientifiques écrits en collaboration internationale. Très bel indicateur qui nous montre visuellement qu'est-ce que c'est que l'internationalisation. C'est le fait que, alors que 15 % des papiers québécois étaient écrits avec des chercheurs étrangers, la proportion en 2003 est rendu à 40. Et j'ai les chiffres pour 2009, mais 2007, je ne les ai pas mis, ça doit être bien sûr. On voit que ça va prendre droite et que ça continue. Il viendra un jour où, comme le papier individuel à un auteur n'existe plus, le papier national n'existera plus. Et ces réseaux, bien sûr, sont multiples. Ici, bon, parce que je fais beaucoup d'études aussi sur les réseaux internationaux, donc j'en ai pris un peu au hasard, et on voit très bien les orientations différentes qui reflète au fond les traditions culturelles. On voit que dans le cas du Québec, l'intensité des liens est d'abord très forte avec la France, alors que l'Ontario a bien sûr des liens privilégiés avec le Royaume-Uni. Ce qui veut dire que même les liens de collaboration scientifique internationaux, ils sont diversifiés, mais ont une trajectoire qui rappelle leurs origines culturelles. Il est bien qu'il y ait bien sûr des liens importants entre le Québec et l'Angleterre, avec l'Allemagne, l'intensité comparée avec l'Ontario fait que le réseau québécois est quand même beaucoup plus fort avec la France, alors que pour l'Ontario, il est bien sûr plus faible un peu avec la France. Donc, on peut dire en conclusion que l'histoire des sciences au Québec sur 400 ans, c'est les étapes d'une conquête. D'abord, s'approprier la nature, que je dirais en gros, bien sûr, pour fixer les idées, c'est ce qu'on fait pendant les premiers 2 siècles. On découvre les choses, on s'installe. S'approprier la culture, donc la création d'institutions savantes, c'est ce qui se fait essentiellement au 19e siècle. À part le Collège des Jésuites qui est créé au tout début, il est le seul pendant très longtemps, jusqu'en 1760, dans toute la Nouvelle-France. Et donc, s'approprier la culture, c'est aussi quelque chose qui prend environ un siècle. On a la multiplication des collèges classiques, la création des journaux, la création de revues et donc de sociabilité culturelle jusqu'à l'apothéose qui institutionnalise l'Université Laval. Une fois les institutions mises en place, bien sûr, je dirais, c'est contribuer au savoir universel. C'est ce qu'on fait en développant des programmes de recherche, en fondant des sociétés savantes qui deviennent les porte-parole officielles de la communauté scientifique de plus en plus auprès des élus. Parce que les scientifiques individuellement peuvent bien dire des choses, mais il faut que la science elle-même ait une voix officielle. C'est les sociétés savantes qui le font. Aux États-Unis, c'est la AAAS. Chez nous, c'est l'ACFAS. Ailleurs, c'est d'autres types d'institutions. Et bien sûr, cette contribution au savoir universel ne peut pas se faire localement uniquement, mais doit se faire en collaboration avec le monde. Donc, sur 400 ans, le Québec est parti de zéro et a atteint, je dirais, la routinisation internationale des pratiques de la recherche qu'on retrouve partout ailleurs. Il y a de l'astrophysique un peu partout, il y a des sciences un peu partout. On est dans un mode où on n'est pas en train de construire, mais plutôt, je dirais, en ces périodes de déficit économique, en train de tenter de garder à flot un système de la recherche qui est en partie en faillite et au moins en déficit. Donc, le problème, c'est la conclusion de notre livre dans la deuxième édition, c'est que le défi du 21e siècle, c'est de s'assurer que le système de la recherche qui a été mis en place et qui vit aujourd'hui des problèmes difficiles de recrutement, non pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de chercheurs, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de postes pour les chercheurs. Il y a au contraire plein de chercheurs postdoctoraux, plein de chercheurs qui n'attendent qu'avoir des postes, mais les budgets gouvernementaux ne permettent pas de les engager. Donc, les problèmes de l'avenir, c'est le problème du renouvellement des parcs informatiques, des parcs d'ordinateurs, des toits qui coulent dans les universités et des chercheurs d'autres générations qui, on espère, pourront faire ce que les gens du Québec ont fait entre 1960 et 2000, c'est-à-dire construire, contribuer à l'avancement des connaissances, en sachant que c'est de plus en plus coûteux et que, alors que dans les années 60, on pouvait couvrir l'ensemble des disciplines à un certain niveau, depuis les années 90, on s'aperçoit que les gens doivent se concentrer davantage sur certaines cibles, en partie parce que les coûts sont élevés. Les appareils de recherche, Sir Rutherford, au début du siècle, pouvaient avoir le prix Nobel avec des bouts de fil. On sait qu'en 2000, on n'a pas de prix Nobel avec des bouts de fil, mais avec des appareils qui coûtent des centaines de milliers de dollars. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Yves. Y a-t-il des questions dans la salle? Je voulais dire, tout d'abord, remercier l'équipe de l'Espace Mendès France. Alors, en tant qu'équipe de l'Espace Mendès France, je te remercie aussi. On a fait cette exposition ensemble avec beaucoup d'intérêt. Et comme tu le disais au début, quand on t'a contacté, tu as dit « Oui, non, je vous laisse faire, je n'y connais rien ». Tu as été très, très réactif. Et vraiment, tu as fait un travail de culture scientifique en disant, bien sûr, c'était la provocation, que tu ne connaissais pas la culture scientifique. Mais on a la preuve que tu la connais. Et vraiment, on te remercie infiniment.
Bonjour, merci pour votre exposé qui était très, très intéressant. Je souhaiterais savoir quel est l'état actuel de la recherche et de la science au Canada. En particulier, il y a eu une époque où le Canada et le Québec en particulier importaient énormément de matières grises. Et je voudrais savoir si ce phénomène d'importation continue ou s'il est stabilisé et si la relève des jeunes générations de scientifiques québécois ou canadiens est en place.
Je vais parler du cas du Québec parce que, bien sûr, il y a une différence assez importante entre les universités du reste du Canada qui sont très branchées sur les États-Unis. Quand on est dans un monde qui parle anglais, à l'Université de Toronto, engager un Américain, il n'y a aucune différence entre engager un Canadien. Il est impossible de savoir, d'ailleurs, la différence entre un Canadien anglais et un Américain. Dans le cas du Québec, bien sûr, il y a une barrière supplémentaire qui est la langue. C'est beau de dire on veut engager un Américain, mais à l'Université de Montréal, là, on enseigne en français. Donc, cette contrainte qui est banale est quand même assez importante. Donc, on peut dire que la stabilisation, justement, du réseau import-export se fait à la fin des années 1970. Pourquoi? Parce que là, tous les programmes, parce qu'on a parlé de sciences, mais on pourrait parler des sciences sociales. Et tous ces programmes-là ont développé leur propre programme de doctorat. Donc, la génération qui s'est formée localement va prendre la relève. Ici, si vous vous rappelez la photographie très belle du département de physique, on avait donc Razetti, mais on avait à côté Koenig. Koenig, c'est donc un étudiant qui, lui, a fait son doctorat sur place. Et quand Razetti est parti, Razetti dit « OK, vous n'êtes pas encore prêt, je vais demander à un de mes collègues italiens, Enrico Persico, de devenir directeur. » Mais après 5 années, Persico a dit « Bon, OK, c'est bien, moi, je retourne en Italie. » Et là, c'est Koenig qui a pris la place. On a un très, très bel exemple de production locale qui a atteint un niveau de maturité. Donc, c'est un peu la même chose. À la fin des années 70, la production doctorale locale à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, à l'Université de Sherbrooke, dans la plupart des domaines, va être suffisante pour engager des professeurs. Une autre façon dont ça va se faire, c'est qu'on va suivre la trace aussi de chercheurs qui, partant du Québec, ont fait leur doctorat à Chicago, à Berkeley ou à Paris. Et là, ils vont revenir. Mais on n'aura plus besoin, comme c'était le cas, on l'a vu dans les années 40 ou dans les années 20, selon les disciplines, de vraiment prendre un chercheur déjà confirmé en France pour lancer des programmes ici. C'est ce qui fait que c'est stabilisé. Là où il y a une nouveauté, c'est depuis, je dirais, une dizaine d'années, parce que, bon, je suis historien des sciences, mais parenthèse, je travaille aussi sur les transformations des universités actuellement avec des bases de données qui suit les tendances, l'internationalisation, ces choses-là. Et donc, on peut observer actuellement, donc on est plus de l'ordre de la sociologie des sciences que d'histoire des sciences, toute une rhétorique de la mondialisation de la science, de l'internationalisation, de la compétition internationale, ce qui amène les gens à augmenter leur recours aux chercheurs étrangers sous prétexte, parce qu'il faut toujours mesurer ça, hein, les idéologies, c'est assez lourd, mais quand on mesure, ça ne donne pas toujours les mêmes résultats, sous prétexte que les meilleurs sont par définition ceux qui sont à l'étranger. C'est pas vrai par définition. Hein. Ça se regarde, ça, hein. ça se mesure en partie. Et donc, on peut voir une certaine tendance récemment qui va amener, c'est ma prédiction, une croissance de la proportion des professeurs d'origine étrangère comme un effet de la rhétorique, soi-disant de l'excellence, qui se mesure dans ce cas-là par des paramètres souvent simplistes, comme on retrouve par exemple dans les classements de Shanghai, qui correspondent à aucune mesure objective de l'évaluation de la recherche, mais que les présidents d'universités françaises regardent à chaque année en pensant que c'est l'avenir du monde qui s'y décide.
Merci.
Pour le Canada anglais, je vais en parler un mot sur le Canada anglais. Ce qui est intéressant, c'est que la proportion des chercheurs américains y est très, très élevée. C'est tellement vrai qu'au début des années 70, au Canada anglais, il y a eu tout un courant de canadianisation des universités, où les Canadiens anglais se sont mis à réagir à la présence de trop de chercheurs. Ce n'est pas le cas en sciences, parce que la science étant internationale, c'est moins grave. Mais pour les sciences sociales, les gens s'apercevaient que les gens qui enseignent la science po, la sociologie, c'est des Américains. Et donc, ils parlent de quoi? Ils parlent des États-Unis. Et là, les gens commençaient à réagir en disant, attends un peu, là, si on parle de sociologie, il faudrait peut-être parler aussi de sociologie canadienne, de l'immigration canadienne, et pas uniquement des rapports noirs et blancs aux États-Unis qui n'intéressent pas les Canadiens anglais. Ce qui a amené toute une réaction énorme dans les années 1970. Donc, cette question du rapport production locale, importation d'expertise, est plus sensible dans les sciences sociales que dans les sciences exactes. Parce que l'électron, il se comporte de la même façon dans tous les pays.
Mais justement, qu'en est-il des sciences sociales au Québec? Vous n'avez pas tellement, c'est pas tellement votre spécialité, vous me direz. Mais enfin, si vous pouvez faire un bref panorama, un bref historique.
Oui, non, en fait, ici, je n'ai pas pu en parler parce qu'il n'y avait pas d'espace. Mais effectivement, j'ai fait un travail sur le développement des sciences sociales au Québec. Et du point de vue structurel, c'est les mêmes types d'étapes. Hein, on crée, par exemple, le département de sociologie au milieu des années 50. On crée le département de criminologie, on crée le département de psychologie en 1941. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose. On prend un jeune professeur ou un jeune diplômé, on dit, OK, toi, tu vas aller faire ton doctorat qui aux États-Unis, qui en France, et tu vas revenir. Donc, on a fait la même chose avec les sciences sociales. Et donc, la première génération, par exemple, de Sciences Po à l'Université Laval a été formée à Paris. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en sciences sociales, on va avoir deux générations. Une génération essentiellement formée en Europe, Et ensuite, une génération qui commence à être formée aux États-Unis, la sociologie, par exemple, de l'école de Chicago et à Harvard. Donc, actuellement, en sciences sociales au Québec, on a ces deux groupes-là, les deux réseaux. Un réseau qui s'est tissé avec, par exemple, Sciences Po, avec l'ENA, qui va donc avoir ce lien privilégié. Mais le développement des départements de sciences sociales se font tous, en gros, entre 1955 et 1960, donc après la Deuxième Guerre mondiale, alors que les départements scientifiques, on pense chimie, eux, se font entre 1920 et 1940.
Moi, je voulais savoir comment s'organise la relation entre l'université et le secteur aval. Il semble qu'on était très intéressés, au moins il y a quelques années, et dans cette région en particulier, d'aller voir ce qui se passait au Québec, puisque vous aviez une démarche qui était assez innovante par rapport à, disons, la manière avec laquelle la relation recherche, entreprise se développer.
Oui, depuis les années, je pense que dans le dernier des panneaux et dans la nouvelle édition, j'en parle beaucoup, depuis les années 80, il y a eu une multiplication des relations université-entreprise. Je ne les ai pas ici, mais j'ai des courbes qui vous montrent les mêmes tendances de croissance de la proportion, par exemple, des publications écrites en collaboration avec des industries. La croissance de la prise de brevets dans les universités, une croissance énorme, de 3. Ça a été multiplié par 3 le nombre de brevets universitaires de mémoire là, entre 1990 et 2005. Multiplié par 3. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de... Et la raison fondamentale de cette croissance-là est reliée de façon très précise au déclin de l'investissement gouvernemental dans les universités. Parce que les frais des universités, chaque université chez nous, vous savez, est indépendante. C'est-à-dire, elle a son budget, elle fait ce qu'elle veut, on ne peut rien... L'UQAM, c'est l'UQAM, l'Université de Montréal. Ils n'ont rien en commun, ces universités-là. Chacune est unique. Mais le budget, les 3/4 du budget est gouvernemental, bien qu'il n'est pas géré par le gouvernement. Et donc, la décroissance des budgets gouvernementaux au cours des années 80-90 est compensée, si on regarde les chiffres, complètement par la croissance des revenus industriels. Ce qui fait que le total des universités ne baisse pas malgré la décroissance gouvernementale. Mais elle est remplacée par l'industrie. Donc, c'est affaire de nécessité-vertu. Les universités n'ont pas eu de choix que de s'adapter à une relation beaucoup plus près des industries. Ça avait des conséquences, bien sûr, aussi pour les diplômés. Par exemple, on a créé un programme qui existe aussi ici, ce qu'on appelle en France les bourses CIFRE. On a l'équivalent de programmes de collaboration université-entreprise pour les étudiants de deuxième et troisième cycle qui font leur thèse sur un domaine particulier en relation précise avec une industrie ou un laboratoire gouvernemental ou une ONG, si c'est possible. Et là, ça crée donc des relations avec les employés pour les diplômés. Donc oui, c'est une tendance qui s'est manifestée essentiellement à partir des années 80 et la façon dont ça s'est fait, c'est de façon, on peut dire, forcée. Ce qui est nouveau à la fin des années 90, c'est que là, la politique gouvernementale s'en est mêlée et on a créé, par exemple, ce qu'on appelle la Fondation canadienne pour l'innovation, qui a été créée en 1997, et qui, elle, a mis des millions de dollars dans les universités sur des programmes précis. Et il y avait un avantage de créer des programmes conjoints avec les industries, parce que la Fondation canadienne ne donne que 40% du budget. C'est elle qui évalue, m'a dit, c'est bon, je te donne 40% du coût. Le gouvernement provincial, donc l'Ontario ou le Québec, dit, OK, si le fédéral donne 40%, moi, je donne 40%, et l'université trouve 20%. Donc, le vin, elle ne trouve pas en quêtant sur le coin de la rue, elle trouve en quêtant auprès des grandes compagnies. Ce qui donc accentue les relations avec les industries et qui amène aussi ce qui est connu aussi partout. Je pense qu'il faut bien comprendre, c'est une tendance qui est mondiale. Hein? Cette idée aussi de créer des spin-offs où les chercheurs deviennent des chercheurs entrepreneurs qui créent leur propre industrie, tout en restant professeur ou non, là, ça dépend des universités, ça dépend des professeurs aussi. Fait que la tendance qui est mondiale se retrouvait avec les mêmes années au Québec depuis les années 1980. J'ajouterai avant que le micro se rende que la raison pour laquelle peut-être ça s'est fait de façon plus facile, parce que je suis le comité scientifique du département de sciences humaines du CNRS, la facilité qu'ont eu les universités du Québec dans les années 80 de faire ce lien-là, c'est que ces universités-là sont parfaitement autonomes. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et si elles sont dans le rouge, ben, too bad, ça veut dire qu'il faut qu'ils changent de recteur. Mais comme ils sont autonomes, ils peuvent décider rapidement d'aller chercher de l'argent dans l'industrie sans aucun problème.
C'est pour vous ramener un peu sur les sciences sociales et sciences humaines, parce que par rapport à la philosophie, entre autres, quel regard vous portez sur la rencontre entre la philosophie analytique et la philosophie continentale? Parce qu'au fond, il y a un problème d'écriture dans la langue anglaise.
Oui, ah non, exactement. J'ai lu un très bon texte récemment par un de mes amis qui est à Strasbourg sur le style en philosophie analytique. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'effectivement, il y a eu, dès les années 70, l'introduction, étant donné que le Québec se situe bien sûr en Amérique du Nord, il est au confluent de la tradition française et de la tradition américaine, non seulement dans les disciplines des sciences humaines et sociales et la philosophie, mais dans les disciplines scientifiques aussi. Par exemple, dans le domaine biomédical, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a une tradition très influencée depuis la fin du 19e siècle avec des relations avec l'Institut Pasteur. Dans d'autres domaines comme la physique, il y a plus des relations souvent avec des universités américaines. Dans le domaine de la philosophie, ce que ça a amené comme conséquence, c'est que la philosophie analytique s'est implantée beaucoup plus rapidement dans plusieurs universités québécoises, en particulier, par exemple, à l'UQAM, qui est créée en 1969 et qui a un réseau très fort de philosophie analytique, alors que dans une université d'ancienne tradition, comme l'Université Laval, qui, comme je vous l'ai dit, l'Université Laval, créée en 1852, était une université catholique, ce qui veut dire que la philosophie était le thomisme. Donc, la faculté de philosophie de l'Université Laval est encore aujourd'hui, on pense, par exemple, à un livre récent d'un professeur de l'Université Laval, Thomas de Coninck, qui vient tout juste de faire paraître un livre sur Aristote. De Coninck, c'est l'incarnation de la tradition thomiste de l'Université Laval, qui date des années 1860-1890. C'est cette grande tradition. Donc, on comprend que l'introduction à l'Université Laval de la philosophie analytique est beaucoup plus difficile que dans un département qui n'existe pas. Et donc, la première tradition qui s'impose à l'UQAM, c'est pas le thomisme, hein, parce qu'on est à la fin des années 60, et donc, à la fin des années 60, c'est au contraire. Tout ce qui est religieux et catholique est mis dehors des institutions. Et donc, c'est plus compliqué. Et donc, là, on voit que le renouvellement des problématiques se fait parfois pour des raisons contingentes liées au renouvellement des chercheurs. Et comme c'est les chercheurs chez nous, hein, qui choisissent leur successeur, c'est-à-dire c'est le département qui nomme le nouveau professeur. C'est pas le doyen, c'est le département. Donc, si le département de tradition thomiste et qui est un peu restreint, il ne laissera pas rentrer un analytique. À l'inverse, vous ne ferez probablement pas rentrer un thomiste au département de philo de l'UQAM. Et donc, il y a les deux traditions, ce qu'on appelle la tradition donc, continentale versus la tradition analytique, mais elle s'est implantée au Québec beaucoup plus tôt, et c'est ce qui fait que, par exemple, les grands défenseurs de la philosophie analytique, je pense à Bouveresse au Collège de France, ou même quelqu'un comme Pascal Angèle, qui est maintenant en Suisse, c'est des gens qui sont en relation très, très étroite avec le Québec depuis 25 ans. Et donc, oui, la philosophie analytique s'est implantée assez rapidement. Il y a même une thèse de doctorat actuellement en cours à quelqu'un en France qui regarde justement le rôle du Québec comme lien entre le développement de la philosophie analytique en France versus la tradition plus continentale.
Est-ce qu'il existe encore des établissements d'enseignement supérieur qui dépendent de l'Église ou au Québec et même éventuellement ailleurs, au Canada?
Je dirais que non. Par exemple, l'Université d'Ottawa, qui est maintenant une université en pleine expansion, qui est de plus en plus riche, c'est une université qui était une université créée par les Dominicains. Mais le système de subvention a fait qu'à partir des années 60, surtout en Ontario, parce que bon, l'Université d'Ottawa est bilingue et donc est à moitié francophone, mais techniquement, elle est en Ontario. Donc, elle dépend des modes de subvention du gouvernement de l'Ontario, ce qui l'a amené. Donc, toutes les universités sont officiellement laïques. Et ça s'est fait par des changements de charte dans les années 60 et début des années 70. Par exemple, à l'Université Laval, le premier recteur laïque, qui n'est pas un monseigneur, c'est un physicien, Larkin Kerwin, qui, si ma mémoire est bonne, a été nommé vers 1972. Alors que l'Université de Montréal, bien sûr, Montréal est un centre métropolitain beaucoup plus multiethnique et multireligieux que Québec, qui demeure quand même une province par rapport à Montréal sur le plan sociologique, ce n'est pas une critique de contenu. Je suis un originaire de Québec, mais sur le plan sociologique, ça a une caractéristique Québec. Hein. Ce n'est pas la même du tout que Montréal. Donc, ça explique que le recteur laïque de Montréal, le premier qui est un chimiste, a été nommé en 1965, donc 7-8 ans avant Québec. Et c'était la réforme de dire ça n'a plus de sens à partir du milieu des années 60 d'avoir une université dirigée par la clergé. C'est devenu un anachronisme. Et donc, c'est terminé.
Merci beaucoup, Yves Ingrat. Donc, si vous voulez prendre la revue de l'actualité en sortant, on va applaudir Yves. Merci beaucoup.